Voilà pour ça. Maintenant, on aborde une autre question, c'est la question des droits de l'homme. Vous savez que donc les grandes organisations internationales ont signé des déclarations relatives au respect des droits de l'homme. On va voir ce qu'il en est dans l'islam. Les grandes déclarations des droits de l'homme, notamment la déclaration universelle de 1948, au fond, elle a des racines chrétiennes. C'est la dignité de l'homme qui est demandée, que la déclaration demande à qu'elle soit respectée, sa dignité et sa liberté. La notion de personne humaine, il faut savoir que c'est une notion chrétienne. Dans l'islam, les choses se présentent différemment. Il y a bien sûr des individus, c'est une réalité qu'on peut observer, nous sommes tous des individus. Mais le concept de personne est un concept chrétien qui prend sa source dans le Dieu trinitaire, le Dieu un en trois personnes. Ça, c'est une réalité absolument magnifique. Mais comme l'islam ne montre pas un Dieu personnel, un Dieu trinitaire, on l'a vu au début, c'est un Dieu qui ne se laisse pas connaître, l'individu, lui, ne peut pas ressembler à Dieu. Il n'est pas doté d'une dignité qui lui serait ontologique, qui découlerait du fait qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc la notion de personne n'existe pas, et c'est tellement vrai qu'il n'y a pas le mot arabe pour désigner la personne, si bien que les chrétiens qui ont adopté la langue arabe à partir de la conquête islamique au 7e siècle n'ont pas trouvé dans cette langue un mot pour désigner la personne. Ils ont gardé le mot araméen. C'est comme pour Jésus, c'est la même logique. Alors le mot araméen pour désigner la personne, c'est ouknoum. O-U-Q-N-O-U-M. En fait, l'homme musulman, il trouve sa dignité en fonction de ce que Dieu lui consent, mais donc pas dans sa nature même d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc sa dignité, elle vient du fait qu'il est musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu, et aussi membre de l'Umma, la communauté. Umma, ça s'écrit O-U-2-M-A. L'étymologie est intéressante de ce mot. Umma a pour racine O-U-M, qui veut dire mère ou matrice. L'Umma, c'est la communauté des croyants. Et donc, en quelque sorte, elle prend l'homme en charge. Et elle limite sa liberté, bien sûr. L'homme est vraiment pris en charge dans l'islam. Donc, les droits universels promus par les grandes déclarations ne s'appliquent pas forcément, ne sont pas forcément reçus dans les pays où l'islam est religion d'État. Il faut savoir que la plupart des pays musulmans ont signé la déclaration de 1948, ainsi que d'autres documents qui en découlent, qui ont été élaborés par l'ONU ou d'autres grandes institutions, organisations internationales. Pour la déclaration de 1948, l'Arabie et le Yémen ne l'ont pas signée. Les autres pays, ceux dont l'islam est religion d'État, l'ont signé, mais le plus souvent n'ont pas adapté leur législation aux grands principes de la déclaration de 1948. En fait, le principe, c'est est-ce que les droits de l'homme, est-ce qu'ils sont conformes à la charia, à la loi islamique? Ça, c'est le critère. Dans la Déclaration universelle de 1948, par exemple, il est interdit d'infliger aux hommes des peines considérées comme infamantes, inhumaines ou dégradantes. Je pense là à la possibilité donnée par le Coran, mais qui est même nette sur la question, d'amputer la main et le pied du voleur. Alors ça, c'est absolument impossible. C'est un manque de respect de la dignité de l'homme. Et bon, alors, comme ça contredit un principe coranique. Voilà, les législations n'ont pas adapté, voyez, leur propre code pour tenir compte de cette exigence universelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la plupart des pays signataires de la déclaration de 1948 ont produit leur propre déclaration des droits de l'homme, selon la vision musulmane. Il y a trois principales déclarations qui ont été produites. Alors, je vais vous en parler seulement d'une, là. C'est la plus importante. Elle s'appelle la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme. Elle a été rédigée par l'Organisation de la Conférence islamique. Ah non, pardon, excusez-moi, je me trompe. Non, celle-là, c'est celle dont je voulais vous parler. Elle a été rédigée par le Conseil islamique pour l'Europe. Conseil islamique pour l'Europe, et proclamée en 1981 à l'UNESCO d'ailleurs. Il y en a aussi une qui relève de l'Organisation de la Conférence islamique. Parce que j'ai cité cet organisme, je vous dis de quoi il s'agit. L'Organisation de la Conférence islamique, c'est une organisation pan-islamique, avec des États, il y a 57 États qui en sont membres, des États arabes, mais aussi d'autres États musulmans, mais non arabes. Par exemple, la Turquie fait partie, l'Iran font partie de l'organisation de la Conférence islamique. Alors, l'organisation de la Conférence islamique, pardon, a également produit sa propre déclaration. Tous ces documents, ce sont des documents confessionnels qui ne peuvent pas prétendre à l'universalité, même si dans leur titre il y a le qualificatif universel, parce qu'il est bien dit que tout ce qui contrevient à la charia, la loi islamique, ne peut pas être retenu par les organisations musulmanes. Je voulais vous lire juste un passage. Voilà. Ça, c'est l'introduction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en islam du Conseil islamique de l'Europe, en 1981. On peut lire ceci. Nous, les musulmans, porteurs de l'étendard de l'invitation à embrasser la religion de Dieu, à l'aube du 15e siècle de l'Égypte, je vous ai dit hier que le calendrier musulman commence à 622, lors de l'émigration de Mahomet à Médine, donc le 15e siècle de l'Égypte. Alors nous proclamons cette déclaration faite au nom de l'islam, des droits de l'homme, tels qu'on peut les déduire du très noble Coran et de la très pure tradition prophétique, la Sunna. Donc. À ce titre, ces droits se présentent comme des droits éternels qui ne sauraient supporter suppression ou rectification, abrogation ou invalidation. Ce sont des droits qui ont été définis par le Créateur et aucune créature humaine, quelle qu'elle soit, n'a le droit de les invalider ou de s'y attaquer. Voilà. Donc, tout est inscrit dans le cadre de la charia. Et donc l'Oumma est censée être la communauté qui applique la charia à la perfection. Dans le Coran, il y a, dans la sourate 3, verset 110, Dieu dit aux musulmans, « Vous êtes la meilleure communauté suscitée parmi les hommes. » Vous êtes la meilleure communauté suscitée parmi les hommes. Donc c'est dans cette communauté que se pratique le bien tel qu'il est voulu, défini par Dieu. En fait, on se rend compte que finalement, dans la perception islamique, l'homme a plus de devoirs que de droits. En tout cas, retenez bien ceci, c'est que les droits de l'homme ne sont pas des droits de nature ontologique, donc attachés au fait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce sont des droits que Dieu condescend à donner à l'homme selon le droit que Dieu s'accorde à lui-même. Alors donc, il n'y a pas la conception de personne, il n'y a pas la conception universelle des droits de l'homme. Cette conception, elle est confessionnelle, on l'a vu. Mais heureusement, dans certains pays musulmans, on a mis en pratique des actions pour défendre les droits de l'homme tels qu'ils sont conçus dans les grandes déclarations universelles. Donc il y a des ligues de défense des droits de l'homme, vous en avez sans doute entendu parler, dans tel ou tel pays musulman. Alors elles ne sont pas toujours libres d'agir, mais elles existent. Ça, vous voyez, ça montre que aujourd'hui où les pays musulmans ne sont plus fermés sur eux-mêmes, puisque les frontières sont ouvertes à cause de la mondialisation, il peut y avoir des exemples, c'en est un, où ce qui se passe ailleurs, notamment dans les pays de tradition chrétienne, peut influencer des évolutions dans le monde musulman. Et tout à l'heure, je vous parlerai du témoignage chrétien qui est très très important de ce point de vue.